de pouvoir en dire quelques mots. Et je dois ajouter que je suis ravie que ton truc de TDM soit là pour le discuter, parce que il me semble que précisément, il y a beaucoup de points communs entre les thèses. Il me semble que la discussion voilà, sur la question de la communauté, de communalité, devrait être prometteuse. Alors, pour ne pas raccourcir le moment agonistique, j'ai tâché de faire bref, donc beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors, c'est un ouvrage qui me semble véritablement important sur les droits de l'homme. Cela a été dit, et je vous remercie aussi d'ailleurs pour votre présentation très claire de l'ouvrage. Donc, cela a été dit, il s'agit dans cet ouvrage de dresser dans un premier temps une cartographie historique des critiques des droits de l'homme, et cela afin donc de comprendre la situation actuelle de ceux-ci et de comprendre, d'éclairer précisément au jour de cette entreprise généalogique les critiques contemporaines dont les droits de l'homme sont l'objet. Donc très clairement, la généalogie qui est ici très minutieuse et vraiment, effectivement, c'est comme le thème il l'a dit, mais on apprend vraiment beaucoup des analyses très détaillées, très fines, consacrées à Burke, à Dorel, à Rest, à Comte, à Delta. Enfin, bien, voilà, la numération des noms laisse entendre, je crois, à quel point c'est un travail énorme et réellement attirant. Et par ailleurs, je dois dire qu'il me semble que les promesses de l'entreprise généalogique sont tenues, puisqu'il me semble réellement que, grâce au travail très fin d'interprétation qui est fait, on voit bien, effectivement, en même temps, la permanence et les points de, en particulier la permanence de certains motifs des critiques des droits de l'homme, de ces premières critiques de ceux-ci jusqu'aux critiques les plus contemporaines. Je passe rapidement sur ces points-là. Je dois dire que parmi les choses qui m'ont particulièrement intéressée, qui m'ont paru aussi extrêmement claires dans l'ouvrage, c'est un motif qui revient souvent, c'est véritablement la manière dont est montré qu'il n'y a aucun lien ni essentiel, ni nécessaire entre les droits de l'homme et sinon le libéralisme, du moins le néolibéralisme, et très clairement vous montrez, et c'est redit, vous montrez à plusieurs reprises, et à cet égard d'ailleurs les pages sur Hayek me semble éloquent, à quel point il n'y a donc aucune corrélation entre les droits de l'homme et le néolibéralisme, la récurrence sur le libéralisme, voire précisément, il y a une opposition entre ces deux choses, puisque comme cela est très bien montré, ce qui s'exprime et ce qui est recherché à travers notamment les règles de conduite hayekiennes, ça n'est pas une défense des droits de l'homme, c'est tout au contraire quelque chose qui est comme une efficience du marché à laquelle précisément les droits de l'homme peuvent être un obstacle et peuvent constituer une entrave. Enfin, dans les points que je voulais souligner, c'était aussi réellement saluer le style de l'ouvrage qui n'est jamais jargonnant, qui est d'une clarté qui me semble exemplaire, voilà, et cela sans sacrifier encore une fois à la finesse des analyses, donc ça, tout ça fait de cet ouvrage vraiment quelque chose d'extrêmement, un livre extrêmement agréable à lire, en plus d'être très instructif. Alors, je suis doublement désolée pour mes questions. D'abord parce que, j'entendais les gens étrangers avant que cette table ronde ne commence, mes deux questions portent principalement sur la fin de l'ouvrage, c'est-à-dire sur la partie programmatique. Et ensuite, parce que, pour part, ma première question reprend, beaucoup m'ont entendu, certains des aspects des questions, des remarques formulées par Marc-Catherine Collot-Hélène. Donc j'aurai deux groupes, au fond, de questions, deux aspects plutôt de groupes de séries de remarques, qui portent sur l'idée, enfin, qui vise à vous interroger sur, au fond, la conception de la politique des droits d'homme que vous cherchez à élaborer ici. Et en effet, c'est sur la question de l'institutionnalisation, la manière dont vous pensez l'institutionnalisation possible de la communauté politique que vous corrélez à cette politique des droits d'homme que j'aimerais vous interroger. Quant au second aspect, j'aurais des questions à vous poser sur finalement la question de savoir la politique de quel droit d'homme vous cherchez. dans l'ouvrage avec peut-être la formulation d'un petit regret, mais qui peut-être balayé par les analyses à venir. Alors, très rapidement, puisque Catherine Colliot-Donnel a déjà dit beaucoup de choses là-dessus, et bien plus précisément que je serais capable de le faire sur la question, sur la conception de la politique des droits d'homme qui est défendue dans l'ouvrage. Alors, il m'a semblé à vous dire que, et ça a été dit, que les analyses que vous proposez des droits de l'homme à la lumière de l'art critique, au fond, étaient assez proches, si ce n'est identiques, du moins très proches, de celles qui sont données par Catherine Colliot-Donnel dans son ouvrage « La démocratie sans démos », et toutes deux aboutissent à l'idée d'une possibilité, ensuite peut-être d'une nécessité de quelque chose comme une politique des droits de l'homme. Toutefois, s'agissant de celle-ci, il y a vraiment une différence fondamentale qui m'apparaît entre les deux ouvrages, c'est précisément la question de savoir si on peut ou non se passer du concept de communauté pour précisément penser la politique. Et c'est sur ce point que je souhaitais apporter mes premières questions. Alors, très clairement, et ça a été rappelé par Catherine Colliot-Donnel, vous défendez, critiquer notamment ses rancières et Tissinami, cette conception d'une politique des droits de l'homme qui ferait fi de toute la dimension institutionnelle par laquelle elle devrait passer. Et il m'a semblé que, alors, pour énoncer la thèse, sans doute grossièrement, que vous défendez, il y a cette idée que les droits de l'homme, finalement, permettent de concevoir la politique. Permettre une conception de la politique qui excède l'État, mais pour autant, vous maintenez constamment, et c'est l'idée du dernier chapitre, qu'on ne peut pas pour autant se passer de l'idée de l'État parce qu'il demeure, au fond, la seule instance de redistribution sociale, mais aussi tout simplement parce que la garantie des droits passe en partie par cette instance. Et je reprends ici une formule qui est la vôtre, vous énoncez. Donc, la fonction des droits de l'homme, eh bien, c'est précisément de maintenir l'institution au cœur de l'institué. Et à cet égard, donc, il n'est pas question de se passer d'institution stable pour penser cette politique des droits de l'homme. Toutefois, et là, c'est, je me demande, je ne reviens pas du tout sur l'exégèse d'Arendt. Mais je me demande jusqu'à quel point, précisément, Anna Arendt est ici un auteur tout à fait convaincant pour penser cette chose-là. Alors, j'ai bien. Et au fond, mon interrogation porte là-dessus. Il me semble que, clairement, avec Arendt, et ça, vraiment, je vais revendiquer, tant que j'ai compris les choses, on peut vraiment s'appuyer sur Arendt pour le faire, cette idée de dénationaliser l'État. Donc désimbriquer, décorréler l'État de la nation, et un premier mouvement, en tout cas, décrocher l'idée de la communauté politique de l'idée de nation, c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire. Ça, c'est la thèse que vous reprenez à Rennes. La question que je me pose, c'est de savoir si vous faites le second pas, celui qui consisterait, au fond, à désétatiser complètement la communauté politique. Alors, tel que j'ai monté votre thèse tout à l'heure, il me semble que vous ne le faites pas, mais j'ai eu l'impression, là, entre le dernier chapitre le chapitre sur Arendt et le chapitre conclusif, qu'il y avait une sorte d'oscillation entre ces deux choses. Et il me semble que si l'objectif de décorréler la nation de la communauté politique dans votre discours, c'est vraiment lié à l'idée, au refus de faire, au fond, de l'identité telle qu'appuyée sur la tradition, un concept politique indispensable, le concept politique pertinent. Si on fait le second pas et qu'on cherche à désétatiser complètement la communauté politique, il y a la question du territoire, dont a parlé Catherine Colliot-Donnel, mais il me semble qu'il y a aussi la question de la souveraineté qui se présente comme attribut fondamental de l'État. Et là-dessus, sur la question de la souveraineté, j'avoue que je n'ai pas bien compris en fait la manière dont vous posez des choses, mais parce que c'est relatif aussi à la difficulté que j'ai eu à comprendre réellement quelle forme institutionnelle finalement prenez pour vous cette communauté politique que vous maintenez, donc pour pour penser cette politique des droits de l'homme. Et là, effectivement, enfin, je sais pas, mais il me semble que l'idée inventienne d'une communauté politique, je reprends, je vous cite page 302, qui consisterait, enfin, pour laquelle il suffirait au fond de penser une pratique coopérative de ceux qui se reconnaissent mutuellement comme égaux, enfin, l'idée de penser simplement la communauté à partir, politique à partir de cela, ça me paraît un petit peu compliqué. Et voilà, je veux savoir comment exactement vous pensez celle-ci. Quant à mon second point, qui est la question de savoir au fond quel droit de l'homme vous corrélez à votre politique des droits de l'homme, bien, c'est partie d'un constat. Il m'a semblé à vous dire que finalement, il y a une espèce de permanence là-dedans. Derrière les critiques qui sont faites aux droits de l'homme, finalement, beaucoup de critiques des droits, en général, qui sont posées, et avec cette ambivalence que vous relevez sans cesse, hein, s'agissant des critiques des droits de l'homme comme de leur défense, on reproche à la fois aux droits de l'homme, au fond, de n'être pas de vrais droits, d'un côté, et dans le même temps, on leur reproche de n'être que des droits, alors justement susceptibles de décrire les autres modes et les autres dimensions de la vie en commun des hommes, et ça me semble lié, sans le recouper complètement, à l'idée qu'on reproche à la fois aux droits de l'homme d'être dépolitisants et de politiser certaines dimensions de la vie en commun des hommes qui ne seraient pas censées l'être, et là je pense effectivement au social. Le problème ici, et là j'avoue, j'ai un peu étonné, enfin, en même temps j'ai insisté tout à l'heure sur la fécondité vraiment de la méthode généalogique que vous mettiez en œuvre. En même temps, il me semble qu'il y a quelque chose qui est gommé, c'est au fond le fait que les droits de l'homme, depuis la critique contemporaine jusqu'à aujourd'hui, les critiques qui leur sont immédiatement contemporaines à leur énonciation aux critiques d'aujourd'hui, ils ont quand même singulièrement changé. C'est-à-dire que il me semble que, voilà, se mettre à rire au fond entre la première, deuxième et troisième génération des droits de l'homme, on a affaire exactement à la même chose, et qu'au fond, une politique des droits de l'homme strictement assise sur les droits civils et politiques, ce serait la même chose qu'une politique des droits de l'homme assise sur les droits économiques et sociaux. Et là, encore une fois, je ne peux pas vous donner que justement, on ne peut pas réduire les droits de l'homme à de simples droits individuels, c'est ce que vous, et ça me semble juste le fait des critiques libérales. Mais là, je me demande jusqu'à quel point, au fond, il ne serait pas important de revenir à une détermination plus différenciée, enfin, en tout cas, une détermination. Plus approfondi justement de ces droits de l'homme dont il est question et desquels vous avez de vos voeux une politique. Et au fond, alors là c'est un reproche dont je me rends bien compte qui est pour part injuste, qui m'a manqué en dernier instant, c'est peut-être justement une dimension fondationnelle, plus fondationnelle à l'ouvrage, clairement ça n'est pas la vôtre. Voilà, c'est tout simplement pas la perspective de l'ouvrage, donc là je déplore au fond quelque chose dont je me rends bien compte que ça n'est pas l'objet du livre, mais je me demande si en dernière instance une telle dimension n'est pas au fond nécessaire pour véritablement fonder cette politique des droits de l'homme et pour ne pas prêter le flanc à la critique récurrente. Selon laquelle, justement, à travers la revendication de droit, on aurait finalement affaire à une liste qui est complètement désordonnée, un catalogue désordonné, qui est possiblement infini. Et au fond, si cette entreprise n'est pas nécessaire pour parer à l'objection de prolifération des droits, une prolifération désordonnée